Chapitre 26. La peur de l'incertain. Rentré chez lui, Jacques ne se coucha point. Il alla atteindre une petite malle et s'occupa à la remplir de linge et de vêtements. Bouleversant son armoire, il rencontra le carton où il renfermait ses reliques d'amour, les rubans, les fleurs, les gants qui avaient appartenu à Caroline, un portrait d'elle, les lettres qu'elle avait écrites. Il prit ce carton, le posa sur la cheminée, alluma quelques poignées de bois et, quand la flamme brilla dans le foyer, un à un, il y lança ces objets que jusqu'à ce jour il avait si pieusement gardés. Une odeur de violette se répandit dans la chambre et toutes ses fibres se roidirent et frissonnèrent. Cette odeur, c'était celle que Caroline employait ordinairement, celle qu'elle aimait, et de ces objets qui brûlaient, elle venait de se dégager vivace et pénétrante. Jacques, qui tenait le paquet de lettres à la main, tout prêt à le brûler aussi, s'arrêta. Avec ce parfum, les souvenirs lui avaient monté au cerveau et lui gonflaient le cœur. Mais il n'eut qu'un court moment d'hésitation. Les lettres rejoignirent les fleurs et les rubans. Sur les tisons, elles se tordirent en fumant, puis toutes ensemble, elles s'enflammèrent. Jacques, penché au-dessus de la cheminée, les regardait, et des lambeaux de phrases, des mots lui sautaient aux yeux.
« Nous nous aimerons toujours, mon Jacques, les bois de crayon. »
Au moment où cette dernière ligne, elle aussi, allait être atteinte par les flammes, le courage lui manqua, et se jetant à deux genoux, il voulut au moins la sauver. Ce brusque mouvement activa le courant d'air, et avec les papillons noirs que faisait le papier brûlé, elle s'envola par la cheminée.
« Eh bien, tant mieux, » fit-il, « au moins c'est fini. »
Puis, comme le jour était venu, il sortit. Et il alla chercher un marchand de bric-à-brac, à qui il vendit ce qui restait dans le logement. Ses préparatifs étant ainsi terminés, il courut chez le père Labutte.
« Point de lettre du père Cheviotte, n'est-ce pas ? »
demanda-t-il.
« Hélas, non, mon enfant. Alors je pars. Je vais moi-même chercher une réponse. » Soyez seulement assez bon pour me donner les renseignements indispensables à mon voyage. Où est Bouchard? Quelle route dois-je prendre?
Le père Labutte voulut essayer quelques observations, mais, voyant Jacques bien décidé à ne rien écouter, il lui donna tous les renseignements nécessaires et y joignit de longs conseils sur la nouvelle vie qu'il allait embrasser. 2 heures après, Jacques était au chemin de fer. Quand il descendit de wagon, la nuit commençait à tomber. Il se fit indiquer une auberge et demanda si on pouvait le conduire à Bouchard.
« Ce soir, ce n'est guère facile, »
répondit l'aubergiste.
« Il est tard et les chemins de fer sont mauvais. Tandis qu'au demain matin, si monsieur veut rester à coucher, il n'aura même pas besoin de le conduire. C'est tout droit par la rivière. »
Jacques, malgré son impatience, n'insista point. Il était tard en effet. Il se résigna à rester. Tout en soupant, il tâcha d'obtenir quelques détails sur le père Cheviotte. À en croire le père Labutte, c'était un saint et de plus un homme de génie. Jusqu'où allaient les exagérations de l'amitié et de l'esprit de parti? C'est ce qu'il était curieux d'apprendre. Fin et prudent comme un picard qu'il était, l'aubergiste se tint longtemps sur une sage défensive. Mais à la fin, persuadé que son hôte n'était qu'un voyageur curieux, il se décida à parler.
« Faut que vous sachiez, »
dit-il,
« qu'il y a 12 ans, le couvent était une fabrique d'indiennes. Quand on a su dans le pays que les moines allaient revenir et reprendre leurs propriétés, car ça avait été à eux avant d'être fabrique, je vous parle d'avant la Révolution, ça a fait pas mal crier. D'abord parce que les anciens de la contrée se souvenaient des moines et n'en disaient guère de bien. Et puis aussi, parce que ça retirait le travail aux ouvriers. Quand ils ont été établis, ça s'est calmé tout doucement. Et ils faisaient faire des réparations, Ils étaient charitables au pauvre monde. Maintenant, ils sont assez aimés. Ils sont bien petits brins tourmentants pour qu'on aille aux églises. Mais comme ils aident ceux qui y vont, ça encourage. Et en l'occasion, ils savent bien nous récompenser dans quelques heures qu'ils nous font perdre le dimanche.
Et le père Chevillotte ?
Oh, le révérend père, c'est le meilleur de la bande. C'est lui le généreux. Il était riche quand il s'est fait moine. Il leur a donné toute sa fortune. C'est lui qui a payé presque tout Bouchard. On dit qu'il fait ce qu'il veut et que le pape va le nommer cardinal romain.
Soit la fatigue, soit le bon lit, Jacques dormit cette nuit-là comme depuis longtemps il ne dormait plus. Quand il ouvrit les yeux, le matin, un rayon de soleil sur les rideaux de l'alcôve s'épanouissait chaud et clair. Il se leva et ouvrit sa fenêtre. En face de lui s'étalaient de vastes prairies couvertes d'un brouillard dans lequel paraissaient flotter de longues files de peupliers. On ne voyait point de rivière, mais le bruit de l'eau tombant par-dessus des vannes et le ronflement d'un moulin disaient qu'il y en avait une sous ces blanches et légères vapeurs.
Des vaches passèrent se rendant au pâturage, et dans la cour de l'auberge, les poules et les coqs sortant du poulailler firent entendre leurs joyeux cris. L'air frais, chargé des pénétrantes senteurs de la campagne qui lui souffla au visage, le calme de la nature, les bruits des paysans s'éveillant, toute cette douce poésie du matin et du village l'émut et le jeta dans une mélancolie pleine de calme et d'apaisement. Il lui sembla qu'il renaissait, qu'il était plus jeune, plus vigoureux. Son cœur se détendit, il espéra.
Lorsqu'il arriva à l'abbaye, on le conduisit à la chapelle où le père Chevillotte disait la messe, et il put ainsi l'observer facilement avant de l'aborder. C'était un grand vieillard à cheveux blancs, à l'air doux et imposant, aux manières pleines d'aisance, de grâce et de dignité. Après la messe, Jacques s'avança vers lui et se nomma.
« Pardonnez-moi de n'avoir point répondu à votre lettre, »
dit le père d'une voix harmonieusement pleine.
« J'étais en voyage. C'est d'hier seulement que je suis de retour. Vous me demandez de vous recevoir ici pour quelques jours, n'est-ce pas ?»«
C'est ce que je vous demande encore, »
répliqua Jacques.
« Si vous me repoussez, je n'ai pas une porte où aller frapper. Cependant, quoique je m'adresse à vous, je dois vous l'avouer en toute sincérité, je n'ai pas la foi. Je viens à vous briser, n'osant pas regarder mon passé. » « Ne croyant pas à l'avenir, je viens vous demander un refuge. »
Pendant qu'il parlait, le père l'observait attentivement.
« Mon fils,
lui dit-il,
vous resterez ici tant que vous voudrez. Notre porte n'a jamais été fermée à celui qui y a frappé. Que cette maison soit désormais la vôtre, vous y serez libre. La règle qu'on y observe ne sera point pour vous. » Personne ne troublera la paix et la solitude dont vous vous entourerez. Si parfois vous avez besoin de vous entretenir, non avec le prêtre, mais avec l'homme, avec le vieillard qui sait la vie, tous les soirs je vous attendrai. »
Sans en dire davantage, il fit signe. Un frère convert s'approcha, et précédant Jacques à travers les grandes et hautes salles nues et sonores, il le conduisit à la chambre qu'on lui assignait. Resté seul, Jacques examina cette chambre. Elle n'avait rien d'une cellule. Les murs étaient tendus de belles tapisseries, les meubles étaient sculptés, et les larges fenêtres ouvraient sur la campagne qui, s'étageant doucement jusqu'à des coteaux couronnés de bois, offrait un horizon fait à souhait pour charmer les yeux, occuper l'esprit, réjouir le cœur. À midi, on vint le prier de descendre pour le dîner. Dans le réfectoire, il trouva toute la communauté debout autour de longues tables. Au-devant de lui s'avança le père Chevillotte portant un plateau et une aiguillère d'argent pour lui laver les mains. Instinctivement, il voulut reculer. Mais comprenant que c'était la règle, confus, il se laissa mouiller et essuyer les doigts par ce vieillard si grand et si digne en son humilité. Alors on récita le Bénédicté, ce qui dura plus de 10 minutes, et l'on s'assit. Pour l'étranger, des viandes rôties avaient été préparées. Pour les frères, des lentilles cuites à l'eau. Curieusement, Jacques examina ceux avec lesquels il allait vivre. Et il put le faire avec d'autant plus de liberté qu'il ne rencontra pas un seul regard tourné vers lui. Chacun mangeait en silence et écoutait la lecture qu'on faisait en latin des constitutions de l'ordre. Tout le reste de la journée, Jacques l'employa à parcourir l'abbaye, les cours, les jardins, le cloître, la chapelle, à se rendre compte matériellement, pour ainsi dire, de cette paix et de ce silence, en attendant qu'il pût les pénétrer et les sentir moralement. Le lendemain, il était dans la bibliothèque lorsque le père Chevillotte entra.
« Eh bien, mon enfant !»
fit celui-ci en étendant et en expliquant son interrogation du regard.
« Ah, mon père, je fais aujourd'hui ce qui m'avait été impossible depuis bien longtemps. Je lis avec plaisir. Il me semble presque que le goût de l'étude m'est revenu et que je vais reprendre un travail que je préparais sur l'art de la Renaissance et le sentiment chrétien. Seulement, si je me remets à ce travail, j'aurai besoin de vos conseils. » Je vous prierai de m'indiquer quel livre possède votre bibliothèque sur ce sujet.
Tous les ouvrages qui vous sont indispensables, vous les trouverez à peu près ici, et, je l'espère, vous pourrez travailler utilement. Si parfois vous avez des jours de découragement, si la solitude vous pèse, venez causer avec moi. Nous échangerons nos idées. Le sujet que vous avez choisi est vaste, et, pour vous, il me semble qu'il y a deux manières de le traiter, en artiste ou en philosophe. Je ne veux en rien peser sur vous, sur vos principes, que d'ailleurs je ne connais pas. Mais, quelle que soit celle de ces manières que vous adoptiez, n'oubliez point, n'est-il pas vrai, que le christianisme représente la supériorité de l'esprit sur la matière, de l'âme sur les sens, et que l'art, suivant la belle expression de saint Basile, doit engager à la vertu. N'oubliez point non plus que la Renaissance a surtout exalté le perfectionnement de la partie matérielle, cherché l'étude exclusive de la forme, et absolument négligé la beauté morale. Mais il ne m'appartient point de vous prêcher ainsi. Je vous touche seulement un côté de la question. Pour le reste, j'attendrai que vous m'interrogiez.
Jacques était un esprit méditatif. Une âme platonique. Doué à un haut point de ce que les phrénologues appelaient la merveillosité, il se fut très probablement, en obéissant à sa seule nature, occupé avec bonheur de la recherche spéculative des problèmes religieux. Mais élevé par un père voltairien, emporté par le courant général qui entraîne notre époque, il n'avait guère appris du christianisme que ce qu'en enseignent ses ennemis ou le catéchisme. À Bouchard, sans en avoir tout d'abord bien conscience, il s'engagea dans un sens complètement opposé. Dès les premières journées, sous l'influence d'une vie solitaire et régulière, où chaque minute était pleinement remplie, où rien ne lui parlait du passé, un grand apaisement s'était fait en lui. Puis, poussé aussi par l'influence non apparente, mais cependant très sensible, du père Chevillotte, séduit par ce qu'il voyait autour de lui, troublé par la confession d'une douleur auprès de laquelle la sienne n'était qu'un enfantillage, douleur qui, cependant, avait dans la foi trouvé la consolation, il se dit que cette religion, après tout, valait bien la peine d'être approfondie de plus près que jusqu'à ce moment il ne l'avait fait, et insensiblement il s'absorba tout entier dans son étude. Les premiers mois, ce fut comme accessoire de son travail. Puis il y chercha un aliment pour son esprit tourmenté. Puis un jour vint où il y chercha un aliment pour son cœur. Ce pauvre cœur se sentant revivre avait vaguement besoin d'amour. Et cet amour c'était à la foi que par la prière il aurait voulu le demander. Mais pour prier il fallait croire. Et Jacques ne croyait point. Les livres de saint Augustin, de saint Basile, de saint Chrysostome l'avaient ému, non convaincu. Aux choses de la foi, il avait voulu appliquer la rigueur de raisonnement qu'il avait déjà appliquée à l'histoire, et là où il eût dû aveuglément accepter la tradition, il avait voulu la discuter, l'analyser, la choisir. Au lieu de fermer les yeux avec confiance et humilité, il les avait ouverts avec orgueil et défiance. Ainsi, venu à Bouchard pour fuir le trouble et l'incertain, il avait trouvé la lutte et le doute. Ce fut dans sa vie un moment terrible. Son cœur n'était point guéri et, de plus, sa tête était malade. Entraîné par le sentiment, retenu par la raison, sans cesse partagé entre les deux, malheureux de l'erreur, plus malheureux encore de la vérité, martyr de l'une et de l'autre, plein d'espoir et de découragement, voulant et ne voulant plus, un jour vaincu par la poésie des offices, pleurant aux accents de l'orgue, se traînant sur les dalles de la chapelle, il criait avec enthousiasme
« Credo, domine, sed adjuva, incredulitatem meam. »
Le lendemain, dans le calme de la réflexion, il maudissait sa raison honteuse et révoltée. Il voulait la forcer au silence. Il cherchait par quels moyens il l'anéantirait, il la tuerait. Ce fut ainsi qu'il en vint aux pratiques d'une dévotion sévère. Ses devoirs religieux, il les accomplit tous. Il les exagéra. Il porta des cilices. Il jeûna des journées entières. Plus il fut incrédule, plus il s'obstina dans la prière et les macérations. N'était-ce point ainsi que Pascal et tant d'autres s'étaient affranchis du doute? Pendant plusieurs mois, quelle fut cette terrible lutte, c'est ce que je n'essaierai point de dire. Une froide analyse ne donnerait d'ailleurs aucune idée des 20 ou 30 lettres que Jacques m'écrivit pendant cette période. Je ne pourrais qu'affaiblir ses cris de douleur en tâchant de les répéter. Il me faudrait, pour être exact, transcrire au moins la moitié, sinon la totalité de ces lettres, et c'est ce que je ne peux ni ne veux faire. Ces lettres, il me les écrivait assez régulièrement, mais un jour elles cessèrent. Depuis près de 6 mois, nous étions absolument sans nouvelles de lui, lorsque je reçus un petit billet daté non de Bouchard, comme à l'ordinaire, mais de Paris. Voici les quelques lignes qu'il contenait.
« J'ai le plus grand besoin de te voir. Aussitôt que tu auras une minute, viens rue Cadet, à l'hôtel d'Irlande. Ne tarde point, je t'en prie. »